Le journal est présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, Washington rétablit les sanctions de l'ONU contre l'Iran au mépris du droit international. Explication dans un instant de Christian Chesneau. Trois scrutins en deux jours en Italie, un référendum, des élections régionales partielles et des communales. Un enjeu aimante les regards, la Toscane où la Ligue de Matteo Salvini joue gros. Décryptage de Bruce de Galzin. En France, la candidature à la candidature pour 2022 de Xavier Bertrand, ex Les Républicains, candidat qui se dit populaire face à un président sortant, libéral anglo-saxon. Enfin, la face cachée du Globe, signée Nabila Hamel, consacrée à l'accord sur la normalisation des relations entre les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Israël. À l'unilatéral, au bon vouloir d'une administration américaine qui a dénoncé quantité d'accords internationaux avec cette fois en ligne de mire l'ennemi international numéro un pour la Maison-Blanche, l'Iran. La nuit dernière, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a, je cite, salué le retour de quasiment toutes les sanctions de l'ONU contre la République islamique d'Iran apparemment levée, sanctions qui sont à nouveau en vigueur. Fin de citation. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Christian, avec vous, commençons peut-être par donner le contexte de ce geste.
Oui, en pleine campagne électorale, Donald Trump exerce plus que jamais une pression maximale sur l'Iran, quitte à s'affranchir du droit international. L'annonce du rétablissement des sanctions multilatérales levées en 2015 est en effet une véritable acrobatie juridique imaginée par l'administration américaine. La Maison-Blanche a en effet activé la procédure du snapback prévue dans l'accord sur le nucléaire iranien de Vienne, sauf que les États-Unis se sont retirés du dit accord en mai 2018. Pour les autres signataires, notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, la décision américaine est sans effet en droit. De son côté, la Russie parle d'action illégitime et considère que Washington a porté un grand coup à l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU. Fidèle à son personnage, Donald Trump bouscule les lignes diplomatiques mais surtout impose, qu'on le veuille ou non, son agenda sur le dossier iranien et donne le tempo. Les États-Unis ont clairement choisi de faire cavalier seul, y compris en irritant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui assistent impuissants au coup de boutoir du président américain. Celui-ci pourrait même annoncer, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre mardi prochain à New York, l'imposition de sanctions secondaires qui puniraient alors tout pays ou entité qui violerait l'embargo américain sur l'Iran. C'est une arme redoutable, car les contrevenants désignés par Washington se verraient alors bloquer l'accès au marché, au système financier américain. Et pour montrer encore un peu plus ses muscles, Donald Trump vient d'envoyer le porte-avions USS Nimitz patrouiller dans les eaux du détroit d'Ormuz.
Merci à vous Christian Chesneau. Ne laissons pas un autre rideau de fer descendre sur le continent européen, lance la rapporteure spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme en Biélorussie, évoquant une situation catastrophique. Plus de 10 000 personnes ont été abusivement arrêtées, selon Anaïs Marine, relevant qu'il y a plus de 500 rapports de torture et des milliers de cas de personnes sauvagement frappées. C'est de l'ordre de la transgression. Hier à Bangkok, des manifestants ont en quelque sorte symboliquement dépossédé la royauté du magistère dont elle abuse depuis trop longtemps à leurs yeux. Des militants ont en effet cimenté une plaque à Sanam Luang, une place proche du Grand Palais, devant plusieurs milliers d'opposants. Ce pays appartient au peuple, n'est pas la propriété du monarque, est-il écrit. Une nouvelle manifestation se déroule ce dimanche dans les rues de la capitale thaïlandaise. Une nouvelle charge contre le roi, un tabou en soi. Sarah Ders a sollicité Bernard Formoso, professeur d'anthropologie à l'université Paul Valéry de Montpellier, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, et lui a demandé qui sont ces jeunes qui participent aux protestations.
Ces jeunes manifestants, ce sont souvent des militants, qui sont en héritage de ces mouvements qu'on appelait les chemises rouges il y a quelques années. Ce sont des activistes étudiants. Ils brisent un tabou, oui, mais il faut comprendre que, à vrai dire, là, ils traduisent une crise de légitimité du souverain actuel. C'est une personnalité controversée qui est moins connue pour le dévouement à l'égard de son peuple que pour ses frasques qui font la une des tabloïdes. D'autre part, il dénonce une dérive absolutiste de la monarchie sous ce règne, à savoir que le souverain actuel, il a mis sous son administration directe la fortune de la famille royale, qui est estimée quand même à 60 milliards de dollars, qu'il a passé sous son contrôle une partie de l'armée, qu'il a restauré la polygamie, qu'il a restauré aussi des pratiques qui relèvent de l'époque prémoderne, c'est-à-dire la féodalité, c'est-à-dire ne pas porter le regard sur lui-même, de la part de ses sujets, etc.
Et en s'attaquant ouvertement à la monarchie, comment ce mouvement peut être populaire en Thaïlande? Comment ce mouvement peut-il s'inscrire dans la durée?
Il est populaire parce que, justement, le peuple n'est pas dupe de ces évolutions et, quelque part, il subit en silence cette dérive absolutiste. Et donc, le souverain actuel, il est mis en contrepoint de son père qui, lui, au contraire, était adulé par la population. Et donc, la comparaison entre le père et le fils n'est pas du tout à l'avantage de ce dernier. Quelque part, ces étudiants, ils bénéficient du soutien tacite de la population qui, par ailleurs, est confrontée à une grave crise économique et qui voit, le monarque passer l'essentiel de son temps à l'étranger, à se perdre dans un mode de vie dispendieux, alors que son père, lui, au contraire, vivait dans une grande austérité.
Bernard Formoso, anthropologue à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Une redite, un travail de sape, au dire des ONG engagées dans le sauvetage en mer Méditerranée. Le Sea-Watch 4 s'est vu interdire de quitter le port de Palerme, en Sicile, au terme d'une inspection qui, je cite le chef de mission du navire humanitaire, n'est qu'une manœuvre, un prétexte fallacieux. Ce point de fixation aura nourri les professions de foi des candidats aux trois scrutins organisés aujourd'hui et demain en Italie. Un référendum, des élections régionales et communales. L'issue du référendum, qui porte sur la réduction d'environ un tiers du nombre de députés et de sénateurs, ne semble guère faire de doute. Les électeurs de Toscane, de Ligurie, de Vénétie, des Marches, de Campanie, des Pouilles et de la Vallée d'Aos sont, eux, appelés à désigner leur président et conseil de région pour les cinq prochaines années. 7 régions sur 20 avec un enjeu national. La Toscane, qui pourrait basculer à droite, ce serait une victoire éclatante pour la Ligue de Matteo Salvini. Un qui tout double aussi, Bruce de Galzin.
Jamais la Toscane n'a été gouvernée à droite. Le Parti démocrate y est très implanté, mais son électorat vieillit. C'est un apparatchik du parti qui brigue la présidence de la région, et Eugenio Gianni, 60 ans, qui ne brille pas par son charisme. En face, la jeune Susanna Ceccardi, 33 ans, surnommée la Lionne, et qui a été la première à emporter une ville d'importance en Toscane il y a 4 ans. Son mentor, Matteo Salvini, lui a laissé le champ libre et a modéré son discours. Car selon le politologue Yves Meny, ancien président de la grande école Sant'Anna à Pise, en Toscane, le patron de la Ligue a tout à gagner ou à perdre.
Pour Salvini, l'enjeu est considérable. Il a beaucoup perdu quand même en image et en voix potentielle au niveau des sondages au cours des 18 derniers mois. Prendre la Toscane, il va nous agiter ce trophée pendant des semaines et des mois.
Et pourrait même réclamer des élections anticipées avec sa coalition qui a mené un combat uni en Toscane, contrairement à la gauche. Mais s'il perd, Matteo Salvini pourrait être détrôné par le gouverneur de la Vénétie, Luca Zaia, qui lui sera réélu à une écrasante majorité. Moins extrémiste et pro-européen, il est déjà poussé par certaines figures de la Ligue à prendre la direction du parti.
Bruce de Galzin à Rome, de l'autre côté des Alpes. La droite, ou plutôt les droites républicaines, se cherchent un candidat avec pour curseur le séparatisme, la lutte contre l'islamisme marotte traditionnelle de cette aile politique, ou plutôt de ce biplan. Alors, quel visage pour 2022? Un petit côté schizophrène se dessine avec une aile dure qu'incarne Bruno Retailleau et une aile dite sociale avec Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France, qui s'exprime ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien. Un premier pas vers une candidature, Maxence Lambrec.
La nature a horreur du vide. Xavier Bertrand profite du retrait de François Baroin en pleine négociation pour diriger la banque Morgan Stanley pour tenter de s'imposer, d'occuper l'espace avant Valérie Pécresse, Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez pour vite gagner la bataille des sondages. Car il n'y aura pas de primaire à droite. S'il est perçu comme le candidat naturel le mieux placé, il s'imposera sans doute au lendemain des régionales qu'il doit encore remporter dans les Hauts-de-France. Lui qui avait quitté les LR en 2017 revient peu à peu à la maison, entretien à venir avec le patron du parti, soutien du président du groupe LR à l'Assemblée, en échange de quoi il muscle son discours sur le communautarisme. 3 ans et demi de perdu, se plaint-il ce matin. Le président est un grand naïf qui n'a pas pris la mesure de ce problème et il ajoute, il ne suffit pas d'avoir été banquier d'affaires pour être de droite. Si Emmanuel Macron était de droite, il aurait fait de la sécurité des Français une priorité. Attaque facile, réplique-t-on chez les marcheurs, il n'a pas la moindre proposition, ne fait qu'aucun occuper le désert, il va finir par se fatiguer. Il reste 580 jours avant la présidentielle.
Maxence Lambrec, il est presque 12h40. Vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Nous revenons ce dimanche sur l'accord de normalisation signé mardi sur les pelouses de la Maison Blanche par Israël, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Quel en sera l'enjeu pour Abu Dhabi et Manama ? Pour François Aïssa Toisi, spécialiste des pétromonarchies, les nouvelles technologies sont au cœur de cette normalisation. Il répond à Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France.
Je pense que les pays du Golfe ont pris un risque politique. Le timing peut interroger et peut donner aussi l'impression que ces pays du Golfe sont venus un peu à la rescousse du président Trump dans le cadre d'une campagne électorale. Bon, l'enjeu est essentiellement politique hein, de ces accords, bien sûr, entre ces deux monarchies et Israël. Tout le monde sait que les deux pays avaient quand même des relations avec Israël depuis un certain nombre d'années et qu'ils coopéraient notamment dans le domaine sécuritaire. Bon, cet accord a le mérite maintenant de clarifier les choses et donc on devrait, en normalisant leurs relations, on devrait voir l'émergence de nouvelles coopérations entre Israël et ces deux monarchies. Essentiellement, je dirais, dans les nouvelles technologies. Je pense que les deux pays du Golfe pourraient profiter de l'existence en Israël de pôles d'excellence dans le domaine notamment de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, là où les Israéliens ont vraiment montré une véritable expertise et sont même en pointe sur les marchés mondiaux. Et bien sûr, ça pourrait également se traduire par du tourisme dans les pays du Golfe, et éventuellement même des investissements d'hommes d'affaires israéliens dans les pays du Golfe.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des joint ventures ? Émirats, Israël, par exemple.
Oui, c'est possible, une coopération dans le domaine de la cybersécurité, parce que je sais qu'il y a de très fortes demandes chez les Émiratis, il y a de très fortes demandes en intelligence artificielle. Je sais qu'aujourd'hui, les fonds des Émirats entendent essentiellement donner priorité à leurs investissements en intelligence artificielle.
Et dans le domaine de l'énergie ?
Je pense que là, il est possible qu'il y ait aussi des coopérations, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, notamment aussi dans le domaine de l'eau, l'irrigation. Je pense que là aussi, où les pays du Golfe ont une très forte volonté de réduire leur dépendance alimentaire et de faire de la sécurité alimentaire un enjeu majeur, ils pourront bien sûr bénéficier de l'expertise des Israéliens dans ce domaine.
Cap à présent sur l'Australie. Accroître l'exploitation de ses ressources minières pour sortir de la récession, c'est le choix fait par ce pays dont l'économie a souffert de la pandémie de coronavirus. L'île continent affiche le plus lourd bilan carbone au monde par habitant et vient de subir les pires incendies de forêt de son histoire. Mais, Grégory Pless, le recours aux énergies fossiles est totalement assumé par le gouvernement conservateur.
La relance économique à plein gaz. C'est le programme au sens figuré comme au sens propre qu'a dévoilé il y a quelques jours Scott Morrison, le premier ministre conservateur et climato-sceptique de l'Australie. Au programme, l'exploitation de nouveaux gisements de gaz naturel, dont l'Australie est devenue en 2020 le premier producteur mondial, mais aussi la construction de nouveaux pipelines et de centrales électriques au gaz. C'est d'après le gouvernement la meilleure alternative au charbon, qui reste pour l'instant la principale source de production d'électricité en Australie, pour répondre aux besoins énergétiques du pays sans pour autant provoquer une inflation des prix pour le consommateur. L'initiative est saluée par le secteur industriel. En revanche, elle est très critiquée par les écologistes qui espéraient une hausse des investissements dans les énergies renouvelables, en particulier dans l'éolien et le solaire, dont le potentiel dans un pays comme l'Australie est immense. Mais sur la scène politique, ils sont désormais les seuls à défendre cette cause. Les travaillistes, qui viennent de dévoiler un nouveau programme politique, ont effacé toute mention relative à la réduction des gaz à effet de serre d'ici à 2030.
Quelques autres informations. En bref, en Guinée, les opposants à un troisième mandat du président Alpha Condé sont décidés à manifester malgré l'état d'urgence. À moins d'un mois de la présidentielle du 18 octobre, des dispositions prises en mars dernier pour cause de Covid-19 ont été levées, mais un collectif appelé Front National de Défense de la Constitution craint que la prolongation en début de semaine de l'état d'urgence ne serve de prétexte pour réprimer la contestation. Ce collectif maintient son appel à des marches pacifique à la fin du mois. L'adieu de la Barbade à la couronne britannique. Le petit État des Caraïbes a officiellement fait part mardi de sa volonté de devenir une république d'ici à la fin novembre 2021, au moment où il fêtera le 55e anniversaire de son indépendance. Avant lui, un certain nombre de pays ont choisi de retirer à la reine d'Angleterre la position de chef d'État. C'est le cas de l'île Maurice, du Ghana, de l'Afrique du Sud ou de la Gambie. 15 autres nations restent sous la couronne britannique, dont la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada.
Merci.
À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabila Hamel. Météo France a levé la nuit dernière la vigilance rouge de pluie, inondation et crue pour le Gard où deux personnes sont désormais portées disparues. De la Haute-Normandie au Hauts-de-France, au nord de l'Île-de-France à l'Alsace, ciel lumineux mais très voilé par des nuages élevés. Quelques éclaircies autour du golfe du Lion, des orages violents menaceront le sud de la Provence, les Alpes du Sud et la Corse. Ce journal a été préparé avec François-Charles Demergue à la technique Anthony Thomasson.